Mesdames, Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal ganz herzlich den Veranstaltern danken, dass sie mich hier zur besten Sendezeit platziert haben. Ich verstehe das als Ausdruck eines ganz großen Vertrauens in meine Unterhaltungskünste. Und ich will gleich zu Anfang sagen, dass ich es niemand persönlich übel nehme, wenn er einschläft, dass ich aber auch niemanden persönlich aufwecken werde, wenn er einschläft. Ich bitte Sie nur, wenn etwa ich einschlafe, dass Sie mich dann bitte aufwecken. Mesdames, Messieurs, une vérité qui engage, verbindliche Wahrheit. Les organisateurs de ces assises ont eu le courage de formuler un grand sujet, un sujet qui ne craint pas le défi et l'ouverture de l'échange. Un grand sujet, ai-je dit. N'est-il pas terriblement grand? Une vérité, et nous y participons. Elle nous engage. Le mot qui sera au centre de ma communication est aussi un grand mot. Témoin, Zeuge. Qui parmi nous, nous autres pasteurs, dira de lui-même, quand on lui pose la question, « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton métier ?» Qui parmi nous dira alors, « Moi, je suis Zeuge, témoin. » Mon métier, c'est ça, témoigner, Zeugen, Zeugnis geben. Ça serait quand même assez fort de tabac. Mais les organisateurs ont été courageux. Ils ont mis la question sur la table. Que faisons-nous, nous autres pasteurs, dans notre vie, dans notre métier? Est-ce qu'il y a là quelque chose qui nous engage? Et quoi alors? Nous allons donc essayer de comprendre cet engagement. Nous allons essayer de comprendre ce que signifie témoigner. Il y a maintes possibilités d'aborder ce sujet. Je voudrais l'aborder de manière assez personnelle en posant deux questions. Premièrement, pourquoi sommes-nous devenus pasteurs? Et deuxième question, commençant à l'autre bout, pourquoi y a-t-il des gens qui viennent toujours entendre nos prédications? Normalement, on pose la question dans l'autre sens. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de gens qui viennent? Moi, je me demande, pourquoi y a-t-il toujours? Alors, la première question. Pour quelles raisons devient-on pasteur? Il peut y avoir 1000 raisons. À cause de nos expériences dans l'école de dimanche, à cause d'un pasteur qui nous a beaucoup impressionnés, voire marqués, à cause du groupe de jeunes, à cause d'un intérêt pour des questions existentielles et théologiques, etc. Chacun a ses raisons. Je me demande pourtant, n'y a-t-il pas quelque chose qui est un arrière-fond de tout cela et qui est peut-être en commun aux diverses motivations personnelles? Je me risque à une hypothèse. On devient pasteur, on est devenu pasteur à cause d'un décalage. Grâce à un décalage et en faveur de lui. Quel décalage? Quelle faille, quelle fente? Décalage entre ce que le monde est et ce qu'il pourrait être. Entre ce qu'il est, sa réalité quotidienne, banale, souvent décevante et perturbante, et sa vérité. Nous n'étions pas, nous ne sommes pas contents du monde tel qu'il est, pas contents du contentement que le monde a de lui-même, comme s'il était tout ce qu'il pourrait être, pas content non plus du mécontentement du monde avec lui-même. Comme si en tout cas, ça serait trop tard, ça serait perdu. Pourquoi sommes-nous devenus pasteurs? On aurait pu choisir un métier plus commode. Nous le sommes devenus à cause d'un surplus. Aufgrund eines Überschusses. Nous croyons à ce surplus. Nous voudrions apporter quelque chose au monde. Quoi donc? Au moins, le message de ce surplus. Le message d'une alternative, d'un horizon autre et ouvert. L'annonce que ce monde n'est pas seulement cela. Au moins, un mot qui irrite, qui casse l'enfermement du monde en lui-même. Une parole, un mot contre la clôture. Mais d'où vient ce mot? Qui nous garantit sa pertinence? D'où vient l'autorisation à prendre ici la parole et la apporter aux autres? Laissons pour l'instant ces questions en suspens. Retenons seulement trois termes clés. Décalage, surplus, un mot. Et attaquons la deuxième question. Pourquoi des gens viennent-ils toujours entendre nos prédications? N'y a-t-il pas des tas de possibilités de se divertir le dimanche matin? Pourquoi alors? J'ai récemment vu une pub pour un calendrier montrant les plus beaux prêtres de l'Église catholique. Cela pourrait être une bonne ou au moins une belle raison de se rendre à l'Église. Mais, hélas, nous sommes protestants. Est-ce peut-être qu'ils viennent à cause de nos prédications? Mais ces prédications sont-elles particulièrement intéressantes? Est-ce qu'elles sont porteuses d'informations sensationnelles? Est-ce qu'elles nous parlent de quelque chose d'utile? Est-ce que ça fait particulièrement plaisir de les entendre? J'avoue que je ne suis pas 100% sûr. Présupposons néanmoins quelqu'un qui est un fan de prédication. N'en trouverait-il pas des meilleurs, 100 fois meilleurs, dans des livres, des prédications d'un saint Augustin, d'un Calvin, d'un maître Eckhart, d'un Zwingli, d'un Luther, d'un Karl Barth? Pour dire ce que je pense, je crois qu'il n'y a presque aucune raison de venir entendre aujourd'hui encore une prédication. L'habitude, peut-être, et pourquoi pas d'ailleurs. Et ça paraît sûrement paradoxal, mais ça pourrait être une piste. Peut-être justement ce dont nous venons de parler, l'inutilité de nos prédications. Un mot qui ne fait pas, qui n'est pas fait pour tel ou tel but. Un mot en décalage, un mot libre et qui cherche tout simplement notre oreille, notre cœur. Un mot en marge, presque de trop. Surplus, ai-je dit. Un mot qui vient d'ailleurs. Quel est l'avantage d'une prédication actuelle prononcée par le pasteur de notre paroisse et qui, selon toute probabilité, est moins intéressante que, disons, une prédication de Paul Tillich ou de Dietrich Bonhoeffer? Pas facile à dire. Peut-être seulement cela. Elle est dite maintenant. Ce jour-là où je viens au culte, elle est préparée exprès. Elle est, si j'ose dire, vivante. Dite entre le prédicateur et moi. Entre sa raison d'être de cette prédication, l'évangile, et notre écoute, elle devient événement. Elle n'entre pas dans le cadre de nos contextes, de nos attentes, elle nous surprend. Non forcément à cause de son contenu, mais à cause de son avènement, elle nous interrompt. Retenons aussi, quant à cette deuxième question, quelques mots clés. Inutilité, oreille et cœur, et parole encore. Nous nous intéressons au témoignage, au rôle, au métier, à la vie du pasteur comme témoin. Je n'ai pas voulu commencer avec des réflexions hautement théologiques. J'ai voulu commencer avec nos expériences, ce que nous sommes en tant que pasteurs, prédicateurs, ce que nous sommes en tant qu'auditeurs. Est-ce que ce que nous venons de développer a à faire quelque chose avec le témoignage, décalage, surplus, parole, inutilité, cœur, vitalité de la parole? Que veut dire témoigner? Toute parole n'est pas témoignage. Pour qu'elle soit témoignage, il faut au moins deux éléments. Premièrement, il faut que cette parole nous engage, qu'elle nous veut et qu'elle a besoin de nous. Et deuxièmement, il faut que ceux dont nous témoignons nous dépassent notre maîtrise. Dans un témoignage, nous disons d'une certaine manière plus que ce que nous pouvons dire. N'est-ce pas étrange? Si. En effet, il y a une différence entre le mot de l'agent d'assurance de vieillesse et le mot d'un pasteur, si vous voulez, un agent de l'évangile. On reproche de temps en temps aux pasteurs et aux prêtres, sauf s'ils sont vraiment très beaux, qu'entre leur agir et leur parler, il y a une différence. S'ils disaient seulement ce qui correspond à leur comportement, alors, ils seraient crédibles. Alors, leur discours serait authentique. Mais cette distance entre discours et action, entre parole et comportement, c'est ça qui est insupportable. Mais, chers collègues, pasteurs, pourrions-nous vraiment souhaiter cela? La réduction de la parole a sa comparabilité avec la réalité. L'accommodation de la parole, même de celle de la prédication, à notre pratique, à la mesure de notre comportement. Un monde, le monde, notre monde, et aucun mot, aucune parole qui ne le dépasserait. Ce monde ne vaut-il pas la peine qu'une parole lui soit dite qui vient à lui, vers lui, et non seulement de lui? Un mot qui sort du contexte de ce monde, qui rompt avec ses évidences, Un mot qui va, pour ainsi dire, plus loin. Et qui vient de plus loin. Témoigner, ça signifie prendre sur soi une parole qui excède notre possession, nos dispositions, nos besoins de sécurité. Un surplus, ai-je dit. Un décalage, un ailleurs. Les paroles viennent toujours d'ailleurs. On ne les maîtrise jamais complètement. On peut appeler cela leur dimension poétique. On peut appeler ça aussi leur dimension évangélique. Être pasteur veut dire avoir pour une fois senti, goûté cette dimension. Cette dimension qui nous inquiète et qui nous engage et ne pouvoir plus jamais oublier cela. Il faut donc en parler. Il faut donc en témoigner. Pour terminer, je voudrais formuler quelques thèses concernant le pasteur comme témoin. Premièrement, le métier du pasteur est une contradiction. Une contradiction vivante. D'un côté, c'est un métier comme les autres. On y gagne sa vie, on vit avec lui dans le quotidien, on nourrit ses enfants, on se réjouit des vacances, on se réjouit du succès, on se plaint de la surcharge de travail, et voilà, c'est bon. Bref, c'est un métier comme les autres. Et d'un autre côté, c'est tout autre chose qu'un métier. Une vocation, un appel, un engagement, et qui plus est, un engagement qui n'arrive jamais à sa fin. Deuxième thèse, témoigner signifie accepter cet engagement, entrer en lui, s'engager dans une affaire, un événement qui nous dépasse. Cette affaire, c'est la troisième thèse, cet événement est une parole qui sort des paramètres de ce qu'on appelle le monde. Son autosatisfaction, sa clôture, son contentement, son Dasein. Et quatrième thèse, cette parole apporte au monde ce que le monde n'aurait pas pu se dire lui-même. Un plus que le monde, un autre que le monde. Non pas seulement la puissance, mais aussi le pardon. Non pas seulement le succès, mais aussi la faiblesse. Non pas seulement la force, la santé, mais aussi la maladie, l'ébranlement, la peur. Non pas seulement le passé et le présent, mais aussi l'avenir. Non pas seulement l'enfermement en soi-même, mais l'interruption, l'excès, le mot, les mots, leur force fragile. Cinquième, témoigner est ainsi une action et en même temps un événement d'ouverture à l'altérité. Je réponds à autrui. L'autre me dépasse. Il me dépasse toujours. Il fait éclater le cercle qui sont les cercles qui sont les miens. Le témoignage ne comble pas l'abîme qui s'ouvre là où je rencontre autrui, mais il ne le fuit pas non plus. Il se situe dans cette fissure, dans cet entre-deux pour prendre sur lui ce qui ne sera jamais suffisamment porté, ce qui ne sera jamais réglé. Cinquième et dernière thèse. Ainsi, le témoignage en tant que parole de l'excès et de l'insuffisance, de l'audace et du tremblement de ma personne et de ce qui la dépasse est touché par l'altérité qui est l'autre, la mort, la vie, Dieu. C'est là que le témoignage est le plus excessif. Il dit plus qu'il peut dire, mais il dit ce dont nous vivons. Je vous remercie.